Ben, on fait hop, 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 et puis voilà. Hein.
Actuel et lui.
Actuel et lui.
Actuel et lui.
Je vais vous faire une chronique musicale.
Alors, j'avais décidé, par légèreté d'esprit, de vous parler de mes petits plaisirs solitaires.
Je vais vous parler de télé.
Comment se soigner par les plantes.
Je parlerai de la gaudriole.
Quels sont les accessoires incontournables qui vous mettront en valeur? Mesdames et messieurs, je vais vous donner quelques petits conseils pour être au top. Alors, à vos stylos.
Messieurs, n'hésitez pas à faire comme moi, à tester et à vous faire votre idée.
Actuel et lui.
Actuel et lui.
Actuel et lui.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Actuel et lui que nous enregistrons aujourd'hui.
Et bonjour Guillaume.
Bonjour,
bonjour à vous auditeurs.
Et oui, et nous n'avons pas Caroline avec nous, prise par d'autres impératifs en ce moment. Donc,
mais elle nous écoute,
voilà,
j'en suis certaine.
Et on sait qu'on va essayer de faire quand même une émission bien, même si elle n'est pas là. Voilà, elle nous donnera une note peut-être dans la prochaine. Alors, au sommaire, de quoi allons-nous parler, Anne-Marie?
Alors, je vais vous parler de la Légion d'honneur, puisqu'on en parle quand même un petit peu en ce moment dans l'actualité. Donc, je me disais que ça serait peut-être intéressant de voir ce qu'est tout simplement la Légion d'honneur.
Oui, voilà. Une remise un petit peu polémique.
Et on va en parler justement. Et alors, toi, Guillaume, tu vas évoquer quel sujet?
Eh bien, moi, je vais faire un petit clin d'œil à une naissance récente dans l'équipe de 48FM.
Tu es papa ?
Non, c'est pas moi. Mais voilà, on va dire bonjour et bienvenue à un petit Paul en parcourant les pôles célèbres. Voilà.
Ah, c'est intéressant.
Actuel et lui.
Actuel et lui.
Actuel et lui.
Anne-Marie, on commence donc avec toi et donc la Légion d'honneur.
Et oui, puisque bon, comme tu as pu faire référence à ce fait d'actualité, effectivement, cette nouvelle a fait la une des titres de la presse française. Le président de la République, François Hollande, a en effet décoré de la Légion d'honneur le prince héritier du royaume d'Arabie Saoudite. Pourtant, François Hollande l'avait fait en toute discrétion, hein, le vendredi 4 mars. Il n'en avait absolument pas parlé. C'était bien évidemment, sans compter sur un communiqué d'une agence de presse saoudienne qui, je cite, écrit « Le président français a remis à son Altesse la médaille de l'Ordre national de la Légion d'honneur, qui est la plus haute distinction française pour tous ses efforts dans la région et dans le monde, dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme ». Fin de citation. Ce qui a provoqué évidemment un véritable tollé, car depuis le début de l'année, le régime saoudien a procédé à 70 exécutions. J'ai bien dit 70 depuis janvier dernier, et nous sommes en mars.
Oui, et puis c'est des exécutions pas avec des méthodes létales type États-Unis, quoi.
Ah bah non, tant qu'à faire.
Non, là on est dans la lapidation, enfin voilà.
Tant qu'à faire, bien souffrir, tu sais. Et la dernière exécution a même eu lieu le dimanche 6 mars. Voilà, donc il a reçu la Légion d'honneur le 4 mars, et deux jours après, nouvelle exécution. Bon, en même temps, je vois pas pourquoi ça s'arrêterait.
Quand on aime, hein.
Voilà. Alors, donc un autre chiffre. En 2015, ce sont 153 personnes qui ont été exécutées en Arabie Saoudite, selon un décompte de l'AFP, basé sur des chiffres officiels, un niveau inégalé depuis quelques années dans ce royaume ultra-conservateur, hein, régi par une interprétation rigoriste de la loi islamique. Donc 153 personnes en 2015, et je vous ai dit 70 depuis le début de l'année 2016, donc on se doute qu'on va sûrement dépasser ce record de 2015.
Et si ça continue comme ça, oui, effectivement. Oui.
Alors, outre ces exécutions, hein, la liberté de la presse n'existe pas réellement, ou pas du tout, en Arabie Saoudite. Et il faut savoir aussi que la femme reste complètement dépendante de l'homme. Pourtant, cette Légion d'honneur, c'est une tradition diplomatique. Je cite Jean-Marc Ayrault, donc le ministre des Affaires étrangères, qui a tenté de se justifier face à ce tollé, hein, puisque c'était vraiment un tollé. Donc, c'est donc l'occasion hein, pour l'équipe d'Actuel et lui d'en savoir un peu plus sur cette Légion d'honneur qui ne fait décidément pas l'unanimité ces jours-ci. Et vous allez voir que l'unanimité n'a jamais d'ailleurs eu lieu avec cette Légion d'honneur.
Alors, bah, tu vas nous dire, qu'est-ce que la Légion d'honneur ?
Eh bien, la Légion d'honneur, c'est tout simplement la plus haute distinction française et l'une des plus connues au monde. Alors, depuis 2 siècles, elle est remise au nom du chef de l'État hein, pour récompenser les citoyens les plus méritants dans tous les domaines d'activité. En tant que distinction honorifique, la Légion d'honneur ne s'accompagne d'aucun avantage matériel ou financier réel. En revanche, c'est une source de fierté inestimable pour les récipiendaires et leurs proches et un exemple de civisme rendu public. La Légion d'honneur a été instituée le 19 mai 1802 par Napoléon Bonaparte. Elle récompense donc depuis ses origines les mérites éminents, militaires ou civils rendus à la nation. La couleur de son ruban est le rouge. La décoration est une étoile à 5 rayons doubles surmontée d'une couronne de chêne et de laurier. Elle présente l'effigie donc de la République et au revers, donc c'est à l'envers l'effigie de la République et au revers deux drapeaux tricolores entouré de la devise « Honneur et patrie ». Est-ce que toi, Guillaume, tu en as déjà vu une sous tes yeux? Alors, pas sur une photo type
alors,
internet.
Hein. La médaille en tant que telle, non.
Non
ben mais après, le ruban qui fait trace sur les revers de veste, ça, oui, plusieurs.
Oui, oui. Mais bon, c'est vrai que la croix en elle-même, ma foi, moi non plus, je n'en ai pas vu.
Mais c'est vrai qu'on se promène difficilement avec ce genre de voilà. ce genre d'objet.
C'est vrai, non, mais
sur sa poche de
cérémonie non. protocolaire.
Non, je n'ai pas eu cet honneur.
La Légion d'honneur est composée donc de chevaliers, d'officiers, de commandeurs, de grands officiers et de grands croix. Les grands officiers et les grands croix sont dignitaires de l'ordre. Leur rang correspond à une dignité donc et non à un grade. En 2016, il existe 92 000 récipients d'air, toujours vivant, parmi près d'un million qui ont reçu cette décoration depuis sa création.
Et qui peut avoir la Légion d'honneur ?
J'ai envie de dire tout le monde, toi, moi, tout citoyen français sans casier judiciaire ayant fait preuve de mérite éminent au service de la nation, à titre militaire ou à titre civil.
Oui, mais le prince d'Arabie Saoudite, il n'est pas citoyen français ?
Non, parce qu'on va le voir aussi, il y a donc pour les citoyens étrangers. Alors, il faut avoir, donc en France, il faut avoir un minimum 20 ans, il faut avoir au minimum 20 années d'activité pour être distingué dans la Légion d'honneur. Chaque année, environ donc 3000 personnes sont distinguées. C'est quand même beaucoup, je trouve. Hein. Un tiers à titre militaire et 2/3 à titre civil. Les étrangers sont environ 400 à être décorés chaque année. Mais contrairement aux Français, ils ne sont pas membres de la Légion d'honneur. Alors, il faut savoir que la Légion d'honneur ne se demande pas. Ce sont les ministres qui ont la responsabilité d'identifier les futurs décorés. Et s'appuie pour cela sur le corps social. Alors ça peut être des parlementaires, hein, des sénateurs, des députés, des maires, des employeurs, des responsables syndicaux, associatifs, présidents de fédérations sportives. Effectivement, on peut, on demande pour quelqu'un. Voilà. On fait un dossier pour une personne qu'on estime que cette personne voilà, a fait beaucoup de choses pour la société. Dernièrement, en Lozère, vous vous en souvenez, un jeune homme, Mathieu, hein, a sauvé une mère et ses enfants de la noyade à un sachet Lidapché, alors que ces derniers avaient eu un accident de voiture et s'étaient retrouvés donc, dans une rivière. Eh bien, les internautes ont de suite demandé à ce que ce jeune homme soit décoré par la Légion d'honneur. Alors évidemment, il ne faut pas que ce soit les internautes qui demandent, mais peut-être que cette demande sera, on ne sait pas, peut-être relayée par des élus, par les parlementaires. On verra, en tout cas, verdict l'an prochain. Mais c'est vrai que ce jeune homme a fait preuve d'un héroïsme incroyable.
Il y a plusieurs promotions hein, de la Légion d'honneur qui se, elle est attribuée trois fois dans l'année, je crois, non ? Pour le jour de l'an, pour Pâques
il me
semble, et je ne sais plus pour quand.
Alors là, je t'avouerai que oui, je ne sais pas, mais oui.
Bon, au lendemain de la journée de la femme, où en est-on de la remise, enfin de la journée du droit des femmes
oui,
plutôt,
oui, hein,
où en est-on de la remise de la Légion d'honneur ?
Effectivement, donc la journée des droits des femmes, c'était le 8 mars et non la journée de la femme, comme on a l'habitude de le dire. Et hélas, ce n'est pas effectivement.
Ouais, droit des femmes dont on aurait pu parler aussi pour le prince d'Arabie Saoudite.
Oui,
mais tu l'as évoqué.
Je dis effectivement que voilà, c'était.
On est dans la tonalité de la semaine.
C'est ça. Alors la Légion d'honneur vit avec son temps et suit les évolutions de la société. Hein. Elle reconnaît de plus en plus la place, par exemple, du monde associatif et salarial, les parcours d'origine modeste et la place des femmes grâce à une stricte parité dans chacune des promotions civiles. Voilà. Donc vive la parité homme-femme.
Alors, bon, tu nous as dit qu'il y avait toujours un petit peu des contestations et donc des personnes peu fréquentables dans cet ordre de la Légion d'honneur.
Alors, ce qu'il faut remarquer, c'est que généralement, quand ce sont des civils français, évidemment, ça ne pose aucun souci. Et au contraire, on est souvent très fiers de savoir qu'une personne a reçu la Légion d'honneur parce qu'on sait que cette personne s'est investie. Là où on a un peu plus de mal... Ce sont en fait avec les étrangers, des personnes qui ont un haut grade, on va le voir, et qui ne font encore une fois pas l'unanimité. Et ça, on va le comprendre de suite. Il n'y a pas de...
Je commence à lire la liste sur le papier, effectivement, ça fait peur.
Et parce qu'il n'y a pas que la décoration de ce prince héritier du royaume d'Arabie Saoudite qui passe mal. Il y a eu Mussolini, Ceausescu, je ne dis jamais... Je ne sais jamais le dire, mais bon, il y a eu...
Le dictateur roumain, voilà. Vous nous avez compris.
Mussolini, on le sait, un fondateur italien du fascisme. Bachar al-Assad, on en parle tellement dans l'actualité. Donc je vous le répète, évidemment, c'est le président syrien qui fait quand même couler du sang dans son pays puisqu'il y a une guerre civile. Vladimir Poutine, président russe. Bon, on ne peut pas dire que ce soit un président qui aime la démocratie. Et il y a aussi Ali Bongo, le président de la République gabonaise. Eh bien, tous ces personnages font partie de ceux qui ont reçu la plus haute distinction française. On est quand même loin de parcours héroïques ou exemplaires. Mais Alice Bouteille, chargée de mission auprès du grand chancelier de la Légion d'honneur, rappelle ceci, et je la cite. « La première vocation de la Légion d'honneur est de récompenser des personnes pour services rendus à la nation. Sa deuxième vocation est moins connue et moins comprise. Il s'agit d'accompagner les relations diplomatiques de la France. Normalement, c'est un ministre qui propose une personne au Conseil de l'Ordre de la Légion d'honneur. En cas d'avis positif, le président de la République valide ou non la nomination, mais 15 à 20% des propositions ministérielles sont refusées par le Conseil de l'Ordre selon les promotions. La procédure est différente pour les étrangers. Le Conseil de l'Ordre ne rend pas d'avis. Cela relève d'une initiative directe du chef de l'État. » Donc en tout cas, elle le dit bien, pour justifier ces remises de Légion d'honneur à ces dictateurs, eh bien, elle parle de relations diplomatiques de la France. En gros, c'est un peu du gagnant-gagnant.
T'achètes mes avions, je te donne une déco.
Voilà, exactement.
Est-ce que... Parce que bon, ces gens-là, peut-être que certains, on pourrait leur l'enlever, non ? Est-ce que c'est possible ?
On en avait d'ailleurs parlé pour Vladimir Poutine. Bien, il l'a gardé. Bon. La distinction peut être retirée en cas de condamnation pénale et lorsque le décoré a commis des actes contraires à l'honneur ou de nature à nuire aux intérêts de la France. Donc on est bien loin des intérêts du peuple, de leur peuple, russe, syrien, on s'en fiche. C'est bien les intérêts de la France. La mesure d'exclusion est annoncée par décret. Alors je vais vous donner un exemple. Lorsqu'il est nommé Grand Croix, grade le plus prestigieux de la Légion d'honneur en 1917, Philippe Pétain est un héros de la Première Guerre mondiale, notamment pour avoir commandé le début de la bataille de Verdun, dont on vient de
commémorer le centenaire.
En 1918, il est aussi élevé à la dignité de maréchal de France. Mais en 1940, il s'octroie. C'est difficile.
Oui, c'est dur aujourd'hui.
Le titre de chef de l'État français et collabore avec les nazis jusqu'à la libération de la France en 1944. Le 15 août 1945, Philippe Pétain est condamné à mort et à la dégradation nationale pour intelligence avec l'ennemi et trahison. Sa Légion d'honneur lui est retirée par décret le jour même. Mais voilà, au niveau des exemples, il n'y en a pas tant que ça finalement. On n'en a pas retiré beaucoup.
Un exemple quand même proche de nous ?
Plus près de nous, Françoise de Bézieux, ancienne préfète de Lozère entre 2007 et 2009, a définitivement été privée en juillet 2015 de sa Légion d'honneur et de son Ordre du Mérite, une privation qui fait suite à sa condamnation pour vol et détournement de biens publics. Elle avait écopé d'un an de prison ferme en juin 2012, je vous le rappelle. Donc elle a perdu sa Légion d'honneur. A contrario, je voulais quand même terminer sur une note positive. c'est que Régine Bourgade, première adjointe au maire de Mende, a reçu en 2014 les insignes de chevalier de l'Ordre national de la Légion d'honneur, une récompense obtenue après 31 ans passés au service de la collectivité mendoise. De son côté, la présidente de la Grande Croix-Rouge de l'Oise...
De la Croix-Rouge, toute simple.
De la Croix-Rouge. Elle n'est peut-être pas grande. La présidente de la Croix-Rouge de Lozère, Marie-Claude Oran, a reçu elle aussi la Légion d'honneur pour son implication dans l'association et son dévouement pour la cause humanitaire.
Voilà, ce sont deux exemples parmi beaucoup d'autres.
Ah, hein, bah, tout à fait. Mais bon, en plus, j'ai cité deux femmes, hein, puisqu'il y avait la journée de la femme, les journées de des droits pour les femmes, il y a peu. Donc voilà, j'ai cité deux femmes, mais effectivement, il y en a beaucoup plus en Lozère. Mais je voulais finir sur une petite note positive avec deux exemples.
Très bien. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes d'écouter en lien avec cette chronique ?
Alors, en lien du tout. Non, mais j'avais envie d'écouter Boulevard Désert parce que c'est un groupe que j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est la chanson Emmenez-moi.
C'est parti.
Comme un grain de sable perdu dans l'océan, j'ai perdu mon cartable, j'ai perdu mes parents. Je suis comme l'eau des courants, fatigué d'ignorer si je coule dans le vent, si je fais que passer. Emmène-moi voir la mer, fais-moi voir l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent. Emmène-moi voir la mer, fais-moi voir l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent. Je suis comme une poussière, si je m'envole un matin, je retourne à la terre, je m'en vais et je viens. Comme l'eau des fontaines, impuissant et lassé, poussé par ce système qui poursuit sans cesser. Emmène-moi voir la mer, fais-moi voir l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent. Emmène-moi voir la mer, fais-moi voir l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent. En fait, je ne saurai jamais si je poursuis la quête, si j'ai laissé tomber. Je suis comme rempli d'espoir, ce matin je renais. Emmène-moi près du phare, allons jusqu'au rocher. Emmène-moi voir la mer, fais-moi voir l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent. Emmène-moi voir la mer, fais-moi voir l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent.
Factuel et lui.
Factuel et lui.
Factuel et lui.
Et nous voici dans cette deuxième partie de l'émission Actuel et lui, deuxième et dernière, puisque je vous le rappelle, nous sommes que deux autour de cette table dans le studio de 48FM. C'est pas grave.
Non.
On fait un petit coucou à Caroline.
Toujours, on lui refait coucou. Et puis, voilà. Ça nous permettra d'avoir des extraits peut-être un petit peu plus longs dans cette chronique, puisque j'avais prévu effectivement des petits extraits. Et on entendra notamment certaines chansons en entier.
Et on le rappelle, tu vas évoquer donc les pôles célèbres. célèbre, peut-être ?
Voilà, l'épaule célèbre. Et donc, on va commencer avec un journaliste.
Bien.
Est-ce que tu as une idée, Anne-Marie, comme ça, ce que ça devient ?
Non, honnêtement, non.
Bon, ben voilà, Paul Amar, journaliste, né en janvier 1950 à Constantine, en Algérie. C'est un journaliste français, diplômé du Centre de formation des journalistes. Paul Amar a commencé sa carrière en 1971 à France Inter, comme correspondant de guerre à Phnom Penh, donc au Cambodge, puis comme correspondant à Washington, aux États-Unis. En 1979, il rejoint Antenne 2 comme grand reporter, puis devient chef du service politique en 1983. À partir de 1990, il présente le 19-20 sur FR3 à l'époque, puis à partir de 1992, le 20h de France 2. Il est contraint de quitter son poste après avoir animé le 1er juin 1994 un débat entre Jean-Marie Le Pen et Bernard Tapie dans le cadre de la campagne précédant les élections européennes, durant lequel il avait proposé des gants de boxe aux deux contradicteurs. Il avait été
C'est pour ça que
je voulais le citer dans la liste des pôles. Il a été contraint à ce débat par son président de France Télévisions de l'époque, Jean-Pierre Alcabache. Et il estimait que ce débat ne pouvait être qu'un pugilat entre les deux hommes. Plus récemment, de 2007 à 2013, il a présenté sur France 5 le magazine Revue et Corrigée. Et depuis 2016, depuis le début de l'année, il est directeur de l'information de i24 News et présente du dimanche au vendredi à 19h, à l'heure 19h heure française, l'émission Paris Jaffa, en direct des studios de Jaffa Tel Aviv. Voilà, il est donc installé en Israël.
Bien, alors on passe peut-être à un autre pôle, hein, forcément, puisque voilà. C'est une chronique sur les pôles, donc on ne va pas parler des Christians.
Et on les fait dans l'ordre alphabétique aussi des noms, hein, donc
on
continue avec un chanteur.
Bon, et alors, ce chanteur, il est d'où ?
Eh ben, c'est Paul Anka, qui est né au Canada, mais de parents libanais, né en 1941. Il est naturalisé américain le 6 septembre 1990. Encouragé par ses parents, Paul Anka développe très tôt un talent de chanteur et enregistre son premier titre, I Confess, à l'âge de 14 ans. Le 7 août 1957, il fait sa première apparition télévisée à New York. Il y présente une chanson composée pour son ancienne babysitter, Diana Yaoub. Ah non, j'y vais pas y arriver non plus. Diana Ayoub, la chanson Diana remporte un succès immédiat et passe en tête des meilleures ventes de disques. Et Diana reste aujourd'hui un des 45 tours les plus vendus de l'histoire de la musique, avec 9 millions de copies. Et on écoute donc Paul Anka dans Diana.
Diana, oh, please
journaliste, chanteur, on va peut-être passer à une autre profession avec un pôle incertain.
Oui, un pôle qui correspond bien à l'heure du
qui
repas.
Nous donne faim.
Voilà, qui nous donne
quand
faim.
On va entendre son nom de suite, voilà. Ça va nous offrir l'appétit.
Et oui, c'est donc Paul Bocuse, né le 11 février 1926 à Collonges-au-Mont-d'Or, dans le Rhône. C'est un grand chef cuisinier français parmi les plus célèbres du monde, un des maîtres de la cuisine traditionnelle et de la grande cuisine, précurseur aussi de la nouvelle cuisine. Il est trois macarons au guide Michelin depuis 1965, désigné cuisinier du siècle par Goemio et pape de la gastronomie en 1989, puis chef du siècle en 2011 par The Culinary Institute of America. Il dirige de nombreux restaurants à Lyon et dans le monde, dont le restaurant gastronomique L'Auberge du Pont de Collonges à Collonges-au-Mont-d'Or, et fonde les Bocuse d'Or en 1987, un des plus prestigieux concours de gastronomie du monde.
Alors tu nous as parlé d'un art, finalement c'était l'art gastronomique, tu vas nous en parler d'un autre avec un certain Paul Cézanne,
peintre né le 19 janvier 1839 à Aix-en-Provence, mort en 1906 dans cette même ville. Paul Cézanne, donc, c'est un peintre français, membre du mouvement impressionniste, considéré aussi comme le précurseur du cubisme. Il est l'auteur de nombreux paysages de Provence, et particulièrement de la campagne d'Aix-en-Provence, et notamment la fameuse montagne Sainte-Victoire. Ami d'enfance de l'écrivain Émile Zola, qu'il rencontra à Aix-en-Provence, il se brouillera avec lui dans ses dernières années.
Silence les grillons sur les branches immobiles, les arbres font des rayons et des ombres subtiles. Silence dans la maison, silence sur la colline. Parfum qu'on devine, c'est l'odeur de saison. Mais voilà l'homme sous ce chapeau de paille, des taches plein sa blouse et sa barbe en bataille. Cézanne peint. Laisse s'accomplir la magie de ses mains, ses alpins. Il éclaire le monde pour nos yeux qui ne voient rien. Les couleurs, il y met sa vie, le bruit de son cœur, et comme un bateau porté par sa voile, doucement le pinceau glisse sur la toile, et voilà l'homme qui croise avec ses yeux le temps d'un éclair, le regard des dieux. Ses alpins laisse s'accomplir le prodige de ses mains. Éclaire le monde pour nos yeux qui ne voient rien. Thank you.
Alors, on a parlé peinture, peut-être qu'on va maintenant parler d'écriture, de littérature, avec un autre Paul.
Avec un poète, Paul Éluard, de son vrai nom, Eugène Émile Paul Grindel. Voilà, donc Paul Éluard est un poète français, né à Saint-Denis le 14 décembre 1895 et mort à Charenton-le-Pont le 18 novembre 1952. En 1916, il choisit donc le nom de Paul Éluard, hérité de sa grand-mère Félicie. Il adhère au dadaïsme et devient l'un des piliers du surréalisme en ouvrant la voie à une action artistique engagée. Donc, il est connu également sous les noms de plumes de Didier Desroches et de Brun. Là, pour évoquer son œuvre, je vous propose d'écouter la chanson des Enfoirés, puisque cette chanson 2016 des Enfoirés est basée sur le poème « Liberté, j'ai écrit ton nom », justement de Paul Éluard. Et donc, on l'écoute.
Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom.
Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre sans papier ou cendre, j'écris ton nom.
Sur les images dorées, sur les armes des guerriers,
sur la couronne des rois,
j'écris ton nom.
Sur la jungle et le désert,
sur la nuit, sur le jeûner,
sur les coins de mon enfance,
j'écris ton nom.
Sur les merveilles des nuits,
sur le pain blanc des journées,
sur les saisons fiancées,
sur tous mes chiffons d'azur,
sur le temps soleil moisi,
sur le lac lune vivante,
j'écris ton nom.
Sur les champs, sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux,
et sur le moulin des ombres,
j'écris ton nom.
Sur chaque bouffée d'aurore, sur la mer, sur les bateaux,
sur les montagnes.
Sur la mousse des nuages, sur les fleurs de l'orage, sur la pluie épaisse et sage,
j'écris ton nom.
Sur la lampe qui s'allume, sur la lampe qui s'éteint,
sur mes maisons réunies,
j'écris ton nom.
Sur tout toucher accordé,
sur le front de mes amis,
sur chaque main qui s'étend,
j'écris ton nom.
Sur mes refuges détruits,
sur mes phares écroulés,
sur les murs de mon ennui,
j'écris ton nom.
Sur l'absence sans désir,
sur la solitude nue,
sur les marches de la mort,
j'écris ton nom.
Pour te connaître, pour te nommer.
Et alors là, on va changer complètement d'univers avec un certain Paul Le Guen.
Et oui, parce que bon, vu le papa, j'étais quand même un peu obligé de parler d'un Paul sportif. Et donc, c'est un Paul footballeur international reconverti maintenant en entraîneur dont on va parler. Effectivement, Paul Le Guen, né le 1er mars 1964 à Pancran dans le Finistère. Le Guen est recruté en 91 par le Paris Saint-Germain. Son entraîneur à cette époque-là le place en milieu de terrain au poste de récupérateur aux côtés de Vincent Guérin et le PSG termine 3e du classement lors de la saison 91-92 puis est vice-champion lors de la saison 92-93. Paul Le Guen dispute 36 matchs lors de ses deux premières saisons parisiennes et remporte la Coupe de France en 93 face à son ancien club du FC Nantes. 3-0, le score de l'époque. En 94, il remporte l'unique titre de champion de France de sa carrière de joueur en inscrivant 7 buts en 37 matchs. Son entraîneur qui l'avait accueilli au Paris Saint-Germain quitte le club et cède sa place à Luis Fernandez. Au cours de la saison, Paul Le Guen est appelé pour la première fois en équipe de France, donc en 1994. Il sera sélectionné 17 fois sous le maillot bleu. Il remporte par la suite de nouveaux trophées avec le PSG, une Coupe de la Ligue, une Coupe de France en 1995, où il signe le but de la victoire face à Strasbourg. La saison suivante, le Paris Saint-Germain remporte la Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe face au Rapid de Vienne et termine vice-champion de France. Paul Le Guen met ensuite terme à sa carrière de joueur à la fin de la saison 97-98, au cours de laquelle le PSG remporte le deuxième doublé Coupe de France, Coupe de la Ligue de son histoire. Au PSG, il a disputé 345 matchs et inscrit 24 buts. Il y laisse l'image d'un personnage réservé et sérieux. Immédiatement après sa retraite de joueur, Le Guen devient l'entraîneur du Stade Rennais. À l'été 2002, il devient l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais jusqu'à l'issue de la saison 2004-2005 où il décide de quitter le club et de prendre une année sabbatique. Durant la saison 2005-2006, Paul Le Guen refuse de reprendre en main la destinée du Paris Saint-Germain car il ne veut pas prendre la place de son ami Laurent Fournier. En mai 2006, il devient entraîneur des Glasgow Rangers, mais cela se passe mal et Le Guen démissionne en compagnie de son adjoint Yves Colleux le 4 janvier 2007, donc il ne sera pas resté très longtemps. Quelques jours plus tard, il remplace Guy Lacombe comme entraîneur du Paris Saint-Germain qui lutte pour le maintien en Ligue 1. Le 27 juillet 2009, donc c'est un petit peu plus tard, il signe un contrat de 6 mois comme sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun pour notamment qu'il puisse se présenter à la Coupe du Monde et à la Coupe d'Afrique des Nations. Et en juin 2011, il s'engage auprès de la Fédération du Sultanat d'Oman, d'où il est remercié en novembre 2015.
Bien, alors maintenant, tu vas nous parler d'un autre Paul, mais ce n'est pas un Paul français, celui-ci.
Non.
Mais que les Français connaissent très bien.
Ah oui, c'est un Paul très connu. On a appris que l'un de ses compagnons de route était décédé hier. On va parler de James Paul McCartney, effectivement qu'on retient souvent sous le nom de Paul McCartney. Né le 18 juin 1942 à Liverpool, c'est un musicien, multi-instrumentiste, auteur, compositeur et chanteur britannique. Il commence sa carrière en tant que membre des Beatles, puis il fonde le groupe Wings, qui rencontre le succès au cours des années 70, avant de continuer en solo jusqu'à aujourd'hui. On écoute un extrait donc de Paul McCartney seul dans Kinney Hay.
been before. I was nervous, but I didn't. Now I'm going back for more.
Et un Paul peut en cacher un autre. Tu vas nous parler, cette fois-ci, de Paul Prébois.
Oui, Paul Prébois, né le 21 février 1927 à Marseille, mort en 97 à Paris. C'est un acteur français. Alors, à 14 ans, il commence comme jockey d'obstacles. Par la suite, il travaille comme guichetier aux assurances sociales. Et puis, pendant la Seconde Guerre mondiale, il se produit dans les brasseries marseillaises et les hôpitaux en pastichant des chansons de Fernandel. Il côtoie à l'époque des artistes de cabaret marseillais. Et ensuite, il s'installe à Paris, où il suit les cours de la rue Blanche, puis se produit au théâtre et au cabaret. En 1948 et 92, il apparaît entre 1948 et 1992, il apparaît dans plus de 120 films, généralement dans des rôles comiques de second plan. Il a également tourné dans une dizaine de téléfilms, dont 7 épisodes de la série policière Les 5 dernières minutes. Dans les années 50 et 60, il travaille aussi à la radio aux côtés de Pierre Dac et Francis Blanche. Et il a été aussi assez présent dans les émissions de Patrick Sébastien à la fin de sa vie. Alors, pour évoquer justement ces rôles qu'il a pu jouer, ses seconds rôles dans des films comiques, bah, je vous propose d'écouter un petit extrait. Alors, le film est repassé il n'y a pas très longtemps, un film avec Louis de Funès, Le Grand Restaurant, donc un film de 1966. Et c'est une séquence où Louis de Funès rentre déguisé dans son restaurant où Paul Prébois joue le rôle du sommelier et donc s'engage la discussion sur est-ce que les vins proposés sont secs ou doux. Donc voilà un petit extrait en vous rappelant que l'alcool est dangereux pour la santé, enfin l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et qu'il faut donc être modéré pour la petite séquence CSA.
Ah, monsieur. Dites-moi, avec un radis, qu'est-ce que vous me conseillez?
Ah, monsieur pourrait prendre un petit muscadet.
C'est sec ou c'est doux?
Plutôt sec.
Je préférerais plutôt doux.
Alors, sauterne.
C'est doux?
Ah, c'est très doux.
C'est pas trop doux?
Ah, si, c'est doux. Voulez-vous un demi-sec?
Non, je préférerais un demi-doux. Non, écoutez, donnez-moi, parce que vous ne savez pas. Attendez, je vais m'occuper moi. Vous allez voir. Attendez. Comment elle est, votre eau des viands?
Elle est très fraîche.
Ah, bon. Et votre eau Perrier, comment est-elle?
Elle est bien aussi, bien.
Elle est bien. Alors, écoutez, vous me donnerez de l'eau Perrier, tiède, mais peu pétillante. Vous savez, voilà. Non, m'arrachez pas des mains, doucement, calmement.
Bon, bah, cette fois-ci, tu vas encore nous ressortir peut-être le slogan que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, puisque tu vas nous parler d'un certain Paul
Ricard. Et oui, j'étais aussi obligé. Quand on cherche les personnages célèbres portant ce nom, c'est donc celui de Paul Ricard, chef d'entreprise et entrepreneur français, né à côté de Marseille en juillet 1909 et mort en 97. Il est le créateur du pastis Ricard. Son entreprise est actuellement intégré dans le groupe Pernod Ricard et plusieurs voies publiques portent son nom en France, mais aussi au Brésil. Enfin, voilà. Alors, parallèlement quand même à son entreprise, c'est ça qui est intéressant aussi et que j'ai un peu découvert en préparant cette chronique, c'est que Paul Ricard a été un mécène et s'est engagé dans de nombreuses aventures. Alors, on connaît la question de l'automobile avec le circuit du Castellet, hein, le circuit Paul Ricard, qu'on appelle maintenant comme ça. Et donc, Paul Ricard, qui possédait un vaste domaine, fait construire ce circuit qui va devenir une référence des sports mécaniques. La F1 en 1971 et jusqu'en 1990, les Grands Prix moto et le Bol d'Or. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que Paul Ricard s'est intéressé à l'océanographie, puisqu'il a créé la Fondation Océanographique Ricard. Et donc, il a financé un observatoire de la mer en Méditerranée, et notamment avec Alain Bombard. Il a été aussi dans le domaine marin, le mécène du navigateur Alain Colas, puis d'Éric Tabarly aussi. Voilà. Et puis, alors, à noter aussi, là, ça, on va évoquer quelqu'un qui aurait pu être cité dans ta liste, peut-être, de la première partie. Dans sa liste natale, dans sa ville natale, pardon, à Marseille, il est l'instigateur, hein, Paul Ricard, avec l'appui du directeur du quotidien La Marseillaise, Michel Montana, et de son directeur national des ventes de l'époque, un certain Charles Pasqua, du mondial La Marseillaise de pétanque. Donc, Festival de pétanque, dont la première édition eut lieu en 1961.
Et sans transition, on passe à un autre Paul, et celui-ci aussi très connu, puisque c'est Paul Verlaine.
Et oui, Paul Verlaine, poète français, né à Metz, en Moselle, le 30 mars 1844, mort à Paris le 8 janvier 1896, à 51 ans. Alors, admirateur de Baudelaire, il s'essaie à la poésie et publie son premier recueil, Poèmes saturniens, en 1866 à 22 ans. Sa vie est bouleversée en 1871 quand il rencontre Arthur Rimbaud. Leur vie amoureuse tumultueuse et errante en Angleterre et en Belgique débouche sur la scène violente où à Bruxelles, Verlaine blesse superficiellement au poignet celui qu'il appelle l'époux infernal. Jugé et condamné, il restera en prison jusqu'au début de 1875, retrouvant le catholicisme de son enfance et écrivant des poèmes qui prendront place dans ses recueils suivants, Sagesse, Jadis et naguère, et parallèlement. Usé par l'alcool, Verlaine meurt à 51 ans, le 8 janvier 1896, d'une pneumonie aiguë, et est inhumé à Paris dans le cimetière des Batignolles.
Et alors du coup, Guillaume, tu as envie de nous lire un poème peut-être de Paul Verlaine ?
Oui, ben, je vous propose ce petit poème. « Il pleure dans mon cœur, comme il pleut sur la ville, quelle est cette langueur qui pénètre mon cœur ? Ô bruit doux de la pluie, par terre et sur les toits, pour un cœur qui s'ennuie, ô le chant de la pluie. Il pleure sans raison dans ce cœur qui s'écœure. Quoi ? Nulle trahison ? Ce deuil est sans raison. C'est bien la pire peine de ne savoir pourquoi, sans amour et sans haine, mon cœur a tant de peine.
C'est magnifique et j'en profite pour le redire, mais c'est le printemps des poètes et à cette occasion, il y a plusieurs manifestations qui sont organisées en Lozère et plus précisément à Mende. On finit cette chronique avec un dernier Paul que tu as décidé donc de choisir pour...
Voilà, un Paul qui nous permettra d'écouter un peu de musique après, puisque c'est un chanteur de pop britannique, Paul Anthony Young, plus connu sous le nom de Paul Young, né le 17 janvier 1956. Donc il a été impressionné par les grandes voix de la soul américaine dès son plus jeune âge. Il apprend la basse et le piano à l'école, puis fait ses gammes dans les groupes Cat Cool et The Cool Cats, Street Band et Q-Tips, pardon, qui tournent dans tout le Royaume-Uni. En 1983, il enregistre les tubes Come Back and Stay et Love of the Common People, extrait d'un album qui est disque de platine dans plusieurs pays. Mais il connaît son plus grand succès en 1985 avec son interprétation de Every Time You Go Away de Daryl Hall. En 1991, il sort un duo avec Zucchero, Senza Una Donna, qui est un tube. Et deux ans plus tard, il enregistre un dernier grand succès, No I Know What Made Otis Blue. Voilà. Ensuite, il connaît une activité plus sporadique, préférant se replier sur sa famille, sans abandonner la musique toutefois. En 1993, il reforme les Q-Tips pour quelques concerts et fonde un groupe d'amis composé Los Pacaminos, avec lesquels il sortira un CD de 4 titres en 1999, et il continue à faire des tournées, que ce soit en 1995, où il participe à divers festivals en Europe, ou en 1999, où il se produit dans de petites salles au Royaume-Uni. Et donc, je vous propose d'écouter Paul Young dans Come Back and Stay.
I won't be satisfied till you're by my side. Don't wait any longer. Come back.
Why don't you come back? Please hurry. Why don't you come back? Please hurry.
Come back and stay for good this time.
Did you ever
come back and stay? I was trying to hide what I felt inside till you passed me by. You said you'd return. You said that you'd be mine till the end of time. But don't wait any longer. Why don't you come back?
Please hurry. Why don't you come back? Please hurry.
Come back.
You come back, please hurry. Why don't you come back? Please hurry. Why don't you come back? Please hurry.
Just come back and stay for good this time.
Did you ever
come back and stay for good this time?
Eagle,
come back and
Actuel et lui.
Actuel et lui.
Actuel et lui.
Bon, ben voilà, cette émission est terminée.
Déjà.
Oui,
on n'a pas vu le temps passer.
C'est ça. Et on souhaite à nouveau un petit coucou à Caroline. On fait un petit coucou à Caroline. Et on vous souhaite à tous une bonne quinzaine à notre écoute. Vous pouvez nous réécouter
le mardi
à 19h et le jeudi à 12h30. Voilà, à très bientôt.
À bientôt, portez-vous bien.
Bonne quinzaine.
Actuel, elle et lui.
Actuel et lui.
Actuel et lui.